Je vous invite à faire un bond de 2000 ans en arrière. Tout à l'heure, Pierre nous a ramené un peu plus de 3000 ans avec David. Moi, je vous en fais faire un peu moins. Et je vous ramène à ce jour de Pentecôte de l'an 33 environ. Il y avait... C'est le chapitre 2 du livre des Actes, pour ceux qui cherchent. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici !» Ces gens qui parlent tous galiléens, comment les entendons-nous dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Dieu a organisé il y a 2000 ans la plus grande campagne jamais organisée pour toucher des peuples qui ne parlaient pas la même langue. Ils étaient contraints de parler une langue pour le commerce, mais chacun venait de son propre pays. Et Dieu avait décidé dans son amour de toucher ces gens dans leur langue. Et moi, je suis toujours épaté devant ce texte, de savoir que Dieu n'a pas utilisé l'anglais, le français, le breton, le celte, pour toucher les gens. Mais il a touché leur cœur dans leur langue, pour qu'ils comprennent bien, pour qu'ils entendent bien parler. Et là, regardez bien le texte, il dit... des merveilles de Dieu. Ce matin, on va revisiter un texte qu'on connaît. Et on va voir comment Dieu opère des merveilles dans nos vies. Comment Dieu transforme nos vies. Et peut-être ce matin, il n'y aura pas la traduction dans toutes les langues que vous connaissez, peut-être votre langue d'origine. La seule langue que je peux accéder, c'est l'anglais, donc je pourrais faire un simultané en anglais, mais ça avancerait pas grand-chose, parce qu'à part ma fille, je sais pas s'il y a quelqu'un qui entend l'anglais ici, et ma femme, bien sûr. Mais que peut-être, là, si vous réfléchissiez un instant, rappelez-vous le premier jour où vous avez entendu parler des merveilles de Dieu. La première fois où votre oreille a été attentive à la perception du message. Et de vous dire, c'est quand même bizarre, ce texte me touche. Ces paroles me touchent. Parce qu'on parle de quelque chose d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a un moyen tout particulier avec chacune des personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous touche pas tous de la même façon. Nous n'avons pas entendu le message de la même façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons le louer, tous ensemble, parce qu'il nous a touchés dans notre cœur en particulier. Alors, j'ai intitulé mon message ce matin, 16-9-3. Alors, ce n'est pas la formule du loto, ce n'est pas une formule gagnante, mais c'est la formule que Dieu a utilisée pour transformer notre vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous tournez les pages dans l'Épître aux Galates. On parle de l'Esprit, n'est-ce pas? L'Esprit qui fait des choses dans nos vies. Ce matin, Pierre nous a invités à demander à nouveau à l'Esprit de nous courber, de nous guider, de nous transformer, n'est-ce pas? Eh bien, dans Galates 5, l'apôtre Paul explique à des Galates un petit peu rebelles, à des Galates prêts à tomber, à rebasculer dans un formalisme et une religion qui ne mène nulle part. Et il commence son texte comme ça, il dit « C'est pour la liberté », on l'a chanté tout à l'heure, « C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres ». C'est ça, nous a affranchis, nous a rendus libres. Demeurez ferme. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Moi j'aime cette introduction, non ? C'est pour la liberté, mais si on ne sait pas de quelle liberté il s'agit. C'est pas pour faire d'un seul coup ce que j'ai envie. C'est pas pour d'un seul coup sortir de ma tête tous les fantasmes qui peuvent y être et me dire « ça y est, je suis libre de les accomplir ». Non, la recette, on va le voir, elle se trouve au chapitre, dans le même chapitre, au verset 16. Il dit donc, je reviendrai dans les versets précédents plus tard, je dis donc « marchez selon l'esprit ». Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire là, le texte dit là clairement que la loi ne peut pas vous sauver. Même si vous appliquez à la lettre tous les détails, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, mais c'est tout. Or voilà le premier 16. Or, voilà ce que vous êtes. Voilà votre production journalière dans votre vie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Waouh ! Tout à l'heure, notre frère a dit qu'il avait été voir son médecin et qu'il n'avait rien trouvé de grave. Ben, le médecin Dieu, quand il a regardé notre corps, il a dit... Quand on fait le diagnostic, mes amis, il y a 9 maladies graves. Et vous continuez de les fabriquer tous les jours. 9. Ce qui est intéressant, c'est que ces 9 produits, ces 9 œuvres, nous tournent contre, premièrement, notre prochain. Elles nous tournent contre Dieu. Et je dirais, en terminant, elle nous tourne contre nous. Parce que ce qui est intéressant de réfléchir, c'est que quand je fais du mal à quelqu'un, quand je pêche, oui, je veux faire du mal à la personne en face de moi. Mais je continue de me faire du mal à moi-même. Et on regarde les péchés contre nous. Dans les versets 19. L'inconduite sexuelle. L'impureté, la débauche, l'envie, l'ivrognerie, les beuveries, les orgies. Notre monde vit dedans, n'est-ce pas ? Et nous étions certainement de cela, n'est-ce pas ? Ceux pour qui ces choses sont naturelles. Ces choses dont on dit, mais tout le monde le fait. Ces choses qui maintenant sont prônées pour la majorité des États d'Occident. La débauche, l'adultère, le dérèglement. La parole vivante dit ceci, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Est-ce que notre cœur produit ces choses. Et ce qui est intéressant, le texte là ne nous dit pas « c'est le fruit de votre cœur ». Mais il dit « c'est l'œuvre, c'est le travail ». C'est quelque chose qu'il produit facilement. Parce qu'il n'y a pas de limite. Parce que quelque part, ce sont les aspirations charnelles. Et là, le texte que vous avez vu tout à l'heure nous a dit qu'il avait des désirs contraires, opposés à ce que l'esprit veut. Contre nous, la débauche, l'impureté. Qu'est-ce qu'on prône ? Regarde, est-ce que vous pouvez regarder un film ? La télévision maintenant, ce que l'on propose à la télévision. L'autre jour, j'ai croisé un jeune homme que je connais bien. C'est pas quelqu'un de l'église, rassurez-vous, cherchez pas à deviner qui c'était. C'était pas ici, c'était à Bretigny. Et alors, il venait d'acheter des DVD. 5 DVD. J'ai dit, je peux voir ? Il me dit, ouais, regarde. Oh ! J'ai dit, tu regardes ça ? Ouais, tu dors bien ? Ouais, c'est rigolo. Meurtre, assassinat, sexe, machin. Ah, j'ai dit, oh, bah, tu dis, non, ça doit être sympathique, tes soirées. Mais c'est le monde, mes amis. Et on s'y plaît dedans. Et finalement, on finit par dire, oh, c'est pas grave. C'est qu'un film. Mais regardez bien combien de meurtres aujourd'hui se passent, selon des films qu'ils ont vus. Combien d'attentats se passent comme on a vu à la télévision ? Combien nos jeunes reproduisent maintenant fidèlement ce qu'ils ont vu pour être des héros eux-mêmes ? Mais n'étions-nous pas les mêmes ? Et j'ose pas dire, ne sommes-nous pas les mêmes ? Si on laisse notre cœur naturel fonctionner, mes amis. Des péchés qui nous tournent contre Dieu. L'idolâtrie. La sorcellerie. Et là, beaucoup viennent de pays hein, où la sorcellerie. Hein, quand je vais en Afrique et je rentre dans certains villages, et à l'entrée, il y a des choses qui sont destinées. Mais rassurez-vous, mes amis, en Auvergne, cette magnifique région de France, vous savez, où il y a un peu de terre autour de l'Auvergne, c'est la France, mais c'est truffé de sorcellerie. Truffé de sorcellerie. On fait de la magie noire, de la magie blanche. À Paris, on fait de la magie noire, de la magie blanche. À Vigneux-sur-Seine. C'est une attaque contre Dieu, mes amis. La sorcellerie. Il y a plus de sorciers et de magiciens sur Paris que de médecins et de prêtres réunis. Vous savez ça ? Et ils ont le droit d'être dans les journaux parce que c'est culturel. Mais nous, on n'a pas le droit d'y être parce que nous, on est culturel. Vaut mieux parler de sorciers que de Dieu. Hein ? Et récemment, notre président l'a fait aussi. Mais peu importe. Troisièmement, des péchés qui nous tournent contre notre prochain. L'hostilité, les disputes, les passions jalouses, les fureurs, ah mais elles sont au nom de Dieu, hein, l'ambition personnelle, les divisions, les dissensions, ah je suis pas vraiment d'accord avec toi là, les rivalités, les animosités. Toi, je te garde une dent, c'est même plus une dent, c'est la mâchoire entière. Les sectes, les divisions. Mes amis, nous disons, nous sommes en communion les uns avec les autres, n'est-ce pas ? Tous unis en l'esprit. Et toi, je peux pas te saquer. Toi, si tu viens à l'église, tu vas voir ce qui va arriver. Toi, tu m'as fait un truc, jamais je te pardonne. Non ? Et on marche dans la combine. Mais on est rempli de l'Esprit Saint. Mais on aime Dieu. Mais le Saint-Esprit vit en moi. Alors de temps en temps, on est obligé un peu de le réclamer parce que quand on regarde ce qu'on dit et ce qu'on fait, on se dit, il ne doit pas être là très souvent. Hein. Je vous avais raconté hein, l'histoire d'un ami à moi qui était représentant d'une grande marque. Et un jour, en témoignage, dimanche matin, il se lève et puis il dit... je sais pas pourquoi il avait été poussé à dire ça, mais il dit, le Seigneur est vraiment assis dans notre voiture. Et puis, il y a un frère, il fait, ouais, quand on respecte les vitesses. Il dit, dans ce cas-là, il est pas souvent avec moi. Parce que notre monde nous attire, mes amis. Et naturellement, ce cœur irrégénéré nous amène sur ce terrain-là. Mais ça, c'est le fruit de la chair. Et vous rendez compte que ici, le texte, et je pense qu'il n'est pas exhaustif, parce qu'il dit « et les choses comme », nous amène à considérer 16 actions de notre personne qui nous tournent contre les autres, contre Dieu et contre nous, et qui nous isolent, et qui font que, quelque part, je mets des grandes barrières entre mes frères et sœurs. Je mets des grandes barrières entre moi et Dieu. Est-ce que le diable cherche le plus, le maximum, c'est de me resserrer, de me mettre dans mon coin. Mais la merveille, c'est de savoir, le texte nous dit là, mais, là il dit, hein, verset 21, quelque chose de fort, parce qu'il dit, je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, c'est pas la première fois qu'il les enseigne là-dessus, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On peut pas arriver au ciel et dire « je savais pas ». On peut pas se présenter devant Dieu et dire « oh mais on m'en a jamais parlé ». Même si un jour on venait à dire « on ne nous a jamais parlé », Dieu dira « mais je t'avais laissé mon écriture ». Je crois même me rappeler que tu en as plein sur ta bibliothèque. Ah mais c'est pour les autres. Regardez bien ce que dit la suite. Mais. Moi j'aime beaucoup parce que la Bible, elle annonce toujours la mauvaise nouvelle. Mais. Nous c'est plutôt l'inverse. Hein. Nous c'est toujours oui mais. Et Dieu c'est plutôt non mais. Et là il dit ça. Il dit mais le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, et c'est la tempérance. 9 aspects du fruit de l'esprit. 16 œuvres de la chair, 16 grappes au fruit de l'esprit. 9 grappes, pardon. Ce qui est intéressant, c'est de noter que pour lutter contre les choses qui sont naturelles, Dieu nous offre quelque chose de surnaturel. Et là, regardez bien, ce surnaturel, nous n'y sommes pour rien. Comment il se manifeste? Alors, c'est simple. Il se manifeste en nous tournant vers Dieu, en nous amenant à considérer Dieu d'une façon incroyable. Il y a 3 groupes dans le fruit. Il commence par l'amour. Moi j'aime beaucoup parce que la Bible dit que Dieu est amour. Ces 3 choses demeurent, l'espérance, la foi et l'amour, mais la plus grande c'est l'amour. Et là, je trouve intéressant que le texte commence par, voilà le fruit de l'esprit, ça commence par l'amour, c'est le leader du groupe. C'est l'animateur du groupe. S'il n'y a pas d'amour, ça n'a rien. Deuxième groupe, le groupe sous-jacent, la joie et la paix. La joie et la paix. État, j'ai marqué normal. État qui nous permet de rentrer en paix avec Dieu et de rentrer en paix avec les autres. J'ai marqué que c'était la résultante, la démonstration. Le troisième groupe, c'est les relations avec les autres. Et là, c'est l'expression de l'amour, la démonstration, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Regardez, en analysant le texte, un instant, on commence par l'amour, ça nous tourne vers Dieu parce que nous le recevons. C'est un don. Le fruit de l'esprit, c'est le don de Dieu. À la nouvelle naissance, Dieu nous donne ce don-là. Il nous remplit de son esprit. Ce qui arrive tout de suite après, c'est que je peux être, alors, avoir la paix et avoir la joie. c'est la résultante directe. Il me dit pas, voilà, t'as reçu l'amour au boulot. Il me dit, t'as reçu l'amour. Alors, expérimente cette joie et cette paix. Et vous vous rappelez ce jour où vous avez fait la paix avec Dieu? Ce jour où vous avez fait la paix avec un frère, une sœur? Où vous avez arrêté de combattre dans votre tête? De vous dire, mais il n'y a plus d'espoir. Et la troisième des choses où le fruit de l'esprit s'expérimente le plus, c'est avec les autres. Avec les autres. Dieu ne nous a pas appelés pour rester seuls, fermés dans notre chambre, avec nos écouteurs sur la tête maintenant, hein, on peut suivre des cultes par Internet, on peut rester dans son lit, mes amis, le samedi, le dimanche. Il y a Internet qui fonctionne. Il y a une chose, vous savez, vous pouvez même finir la journée fâché avec votre ordinateur. Il y a des gens, ils ont besoin même de personne pour s'énerver. Ils sont chez eux. Et puis, mais ça marche pas ce truc, hein. Vous avez besoin. Il y a une urgence. Ça va arriver. Hein. Et Romain, vous ne l'avez pas toujours sous la main. Hein. Il y a une urgence. Et puis, ce truc là. Et Dieu vous regarde. Il dit, bah, t'as besoin de personne. Hein. Tu y arrives tout seul. Hein. Ouais, mais le fabricant, là, je l'aurais sous le... Hein. Ou le vendeur, il m'a roulé. Dieu nous a donné les fruits. Le fruit, pour l'expérimenter avec les autres. Et quand on dit, je suis chrétien, j'aime Dieu, il m'a donné la joie, la paix, mais les autres, je ne peux pas les supporter. Ah oui? Mais alors attends, t'as pas reçu tout le fruit, t'es un peu avarié ton fruit. Là. La patience. Vous avez déjà réclamé de la patience à Dieu? Et c'est là que le train n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui arrive là? Tu vas pas me demander un peu de patience? Ah oh oui, mais alors là, c'est plus de la patience, hein. 2 heures de retard, le machin. Des bouchons? Des appareils qui fonctionnent pas? On vous annonce qu'il y a une grève. Mesdames et messieurs, veut descendre du train, il n'ira pas plus loin. Mais on fait quoi là? Il y a un système de bus? Non. Les bus sont aussi en grève. Seigneur, donne-moi de la patience, hein, mais tout de suite. Hein. La bienveillance. La bonté. Oui, c'est tous les autres. C'est pas nous. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu, il a pensé aux autres. Il nous a pas donné quelque chose qui va nous glorifier, qui va nous encenser, mes amis. Il n'y a que deux toutes petites parties du fruit où je peux exprimer la joie et la paix. Tout le reste, c'est tourner vers les autres. C'est ça l'expression de l'amour de Dieu. C'est ça la merveille de Dieu. C'est que Dieu n'a pas fait de nous des gens pour vivre seuls. Et dès le début, vous vous rappelez, dès le début à la Genèse, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va devenir fou. Je vais lui donner une femme, hein. Comme ça ils seront fous à deux. C'est incroyable que dès le départ, Dieu il a dit qu'il faut qu'il y ait du monde autour. Et finalement, Dieu nous donne tous les ingrédients pour vivre ensemble. Il nous donne son fruit, c'est un cadeau, je ne le mérite pas, je n'ai rien fait, rien. Mais il me donne ses cadeaux pour être tourné vers les autres. Et alors, toutes ces choses que je génère, toutes ces mauvaises habitudes que je génère, alors je peux les laisser tomber pour me tourner vers les autres et les aimer. Plus envie de meurtre, plus de division, plus de secte. Je ne suis plus obligé. C'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Les hommes et les femmes qui étaient en guerre, qui étaient à une époque où il y avait des guerres, où il y avait de l'esclavage, où il y avait tellement de choses. Et Dieu a dit, au milieu de tout ça, je vous donne ma paix, ma joie. Et alors, et regardez, aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, mes amis, c'est parce que le jour de la Pentecôte, 3000 personnes, sur toutes les personnes qui étaient là, on dit ça, c'est un message que nous avons envie d'entendre. Ça, c'est un message que Jules César ou tous ceux qui sont là ne pourront jamais nous donner. c'est un message qui peut transformer notre nation. Et de quoi a besoin notre nation ? La nation dans laquelle nous vivons, la nation qui pour beaucoup est une terre d'asile. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre ? La paix, la joie, l'amour. Elle n'a pas besoin d'entendre la haine, elle sait le faire toute seule. L'horreur, elle sait le faire toute seule. On lit les journaux, on écoute la radio, on voit ça tous les jours, on regarde la télé. C'est comme ça tous les jours. La douceur, la maîtrise de soi. Combien de fois le diable nous amène pour que on pète un câble, on dit, hein ? Pour que, tu vas voir, je le chatouille un peu, tu vas voir de quel bois il se chauffe. Regardez bien la résultante. Verset 23, il dit, la loi, même si vous voulez respecter la loi n'est pas contre ces choses. Vous n'êtes pas contre, vous n'êtes pas hors la loi. Joss Randall, vous savez, Steve McQueen. Galates 5,14, car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu pourvoit au prochain. Et Dieu pourvoit au prochain par le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas donné pour nous, pour que nous l'utilisions tout seul. Déjà, il y a des gens, ils ont du mal à s'aimer eux-mêmes. Hein. Alors aimer les autres, c'est compliqué. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Et vous avez vu que l'amour, c'est le premier. C'est l'introduction parce que c'est Dieu. C'est intéressant, non, de réclamer. On a chanté tout à l'heure, Saint-Esprit, conduis-moi, viens avec moi. Est-ce que je réclame la paix ? Est-ce que je peux réclamer plus de patience pour mes frères et sœurs ? Plus de bienveillance ? Plus de bonté ? Ça, on le prie plutôt à l'inverse. Hein ? Oh Seigneur, donne-leur un peu plus de bonté à mon égard. Seigneur, qu'ils soient beaucoup plus patients avec moi. Car toute la loi se résume en une seule chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et regardez bien, Dieu a pourvu à tout ça. Mais ça, on n'a pas vraiment compris, je crois. Et on passe toute notre vie chrétienne à essayer de comprendre ce que Dieu nous a donné. Et souvent, on chante des chants qui aspirent à des choses que Dieu nous a données. Si Dieu pouvait nous parler directement, il dirait, hey, vous l'avez déjà, hein. Mais vous ne l'exploitez pas. Mais vous ne vous en servez pas. L'autre jour, j'ai fait le vide un peu dans mon garage, ou au moins un peu de rangement. Un jour, je vous ferai voir quand il sera vraiment rangé. Et ma maman m'a donné des caisses. Mon papa était un bricoleur émérite. Il savait tout faire, il avait les outils pour tout faire. Et ma maman m'a donné des boîtes entières d'outils. Il y a 10 ans. Et l'autre jour, j'ai regardé, ils sont toujours dans mon garage. Fermés. Mais moi, je sais pas les utiliser. Mais elle est contente que c'est moi qui les ai. Ah, mon fils, t'as les outils à ton père, oui. Mais j'ai ni ses mains, ni sa tête. Hein. Et mes amis, souvent Dieu nous dit, mais t'as tous les outils pour t'entendre avec ton frère ou ta sœur. T'as tous les outils pour communiquer bien avec ta femme, avec tes enfants. T'as tous les outils pour mettre les choses droites. Ouvre la boîte. Et moi, je vais te montrer. Dieu ne nous donne pas des outils qui sont difficiles à utiliser. Ou la notice est souvent en chinois, hein. Mais Dieu nous donne sa parole et nous dit, commence déjà par aimer. Parce que la première des choses que moi je te donne, c'est l'amour. Mais regardez bien, je termine sur le 3. 16, 9, 3. Versets 5 et 6. Quant à nous, notre espérance est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis, c'était le problème que Paul gérait là, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Et là, on retrouve cette trinité. Espérance, foi, amour. Paul n'utilise pas une recette miracle, un autre moyen. Il s'adresse aux Galates à qui il veut essayer de ramener les Galates dans la bonne voie. Et là, il utilise ces trois facteurs importants. La foi, l'espérance et l'amour. Les chrétiens attendent la justice, espérée par l'esprit et par la foi. C'est Romains chapitre 5, verset 2. La justice n'est pas accomplie par nous, mes amis, mais elle est un don de Dieu. En Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous sommes unis par la foi. Et la sphère, le moyen d'action, le moyen de rayonnement du chrétien, c'est les autres. C'est premièrement ses frères et sœurs, et deuxièmement ceux qui sont en dehors de ses frères et sœurs. Seule est valable la foi qui arrive à une expression effective, et je dirais parfois affective, dans l'amour. Le principe directeur de la vie, c'est la foi exprimée. On veut remettre à notre siècle, dans ce 21e siècle, on veut remettre la foi dans la sphère privée. Mais on ne peut pas la remettre. On ne peut pas la remettre. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle n'y a jamais été dans la sphère du privé. La foi, c'est quelque chose de public. C'est quelque chose de communautaire, c'est quelque chose qui s'exprime et qui se voit. C'est pas quelque chose de caché. Dieu nous a pas donné un cadeau pour le cacher, mais pour le montrer. Et rappelez-vous, les hommes qui veulent tellement tout cacher, ils ont mis Jésus au sommet d'une montagne. Et ils l'ont crucifié. Pour montrer au monde. Mais le Dieu du ciel n'a pas accepté ces choses-là. Et son fils n'est pas resté enfermé dans la mort. N'est-ce pas là les merveilles de Dieu? Ces merveilles qui disent, je ne suis peut-être pas encore arrivé au bout du chemin. J'ai peut-être pas encore tout compris dans ce Galates 5. Peut-être moi, la manifestation de l'esprit, je la vois différemment. Mais voilà comment la Bible la voit, la manifestation de l'esprit. Quand je dis je suis chrétien, quand je dis je me suis converti, j'ai changé de voie. Voilà ce que Dieu peut faire avec ma vie. Me donner la joie, me donner la paix. Et permettre aux autres de s'approcher de moi pour que j'en prenne soin. À la cathédrale de Salzbourg. Salzbourg, c'est en Autriche. Un homme raconte cette histoire que lorsqu'il a été la voir, il a découvert que cette grande cathédrale, c'est une cathédrale très belle, il paraît, avait sur sa façade trois portes en bronze. Deux petites portes, ou de taille moyenne en tout cas, et une grande porte. Et en s'approchant, il s'est aperçu que sur chaque porte, il y avait écrit quelque chose. Et sur une des portes, il n'a pas marqué si c'était à droite ou à gauche, il était marqué « foi ». Sur l'autre porte, l'autre petite porte, c'était marqué espérance. Et la grande porte d'entrée, il y avait marqué amour. La porte de la foi nous rappelle que dans le passé, Jésus est mort pour nos péchés. Nous avons foi dans ces choses, n'est-ce pas ? C'est là que nous déclarons notre foi. Parce que Jésus a accompli quelque chose qui s'est fait déjà. Dans l'Ancien Testament, ils espéraient que Jésus le fasse. Ou que quelqu'un le fasse. Nous avons, la foi nous ramène sur cet acte passé, Golgotha, il y a 2000 ans. La porte de l'espérance, elle nous dit, un jour, je serai avec Jésus. Il reviendra me chercher. C'est mon espérance. Mais mon assurance réelle, l'expression de la réalité de Dieu, c'est cette grande porte où il y a écrit en gros amour dessus. N'est-ce pas? Ce qui nous réunit, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'acte primordial, l'acte qui nous donne accès à cette foi et à cette espérance, c'est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et l'expression de la vie de l'Esprit en nous, c'est l'amour pour les uns et les autres. Et les autres sauront que vous êtes chrétiens par les actes, par votre amour, ils sauront. Est-ce que les gens de Vigneux voient cet amour? Est-ce que les gens qui nous entourent nous voient nous aimer les uns les autres, ou ils entendent nos dissensions, nos divisions, nos a priori, nos haines, nos rancœurs? 1 Corinthiens 13:13, je le recite, il dit: « Or maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. » Avez-vous oublié de franchir une porte? On ne peut pas passer les trois portes en même temps. On ne peut pas rentrer dans la porte de la foi en oubliant l'amour et l'espérance. On ne peut pas passer par l'espérance si on n'est pas passé par l'amour. Et c'est pour ça que la grande porte, c'est la porte de l'amour. Parce que c'est l'amour de Dieu pour moi. C'est l'amour de Dieu pour vous. Il a porté nos péchés, il a été brisé pour nos péchés. Je reviens à ces 2000 ans, au verset 37 du chapitre 2 des Actes. Voilà ce qu'il est dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Hommes, frères, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce message ?» Je traduis un peu. Pierre leur répond: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est en même temps, mes amis, comme Pierre l'a dit ce matin. C'est l'acte initial. Dieu nous donne la paix, la repentance, l'assurance du salut, et son esprit pour que nous puissions alors vivre les uns avec les autres, pour que nous soyons convaincus. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant: « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Et regardez ce verset 41. Et c'est là que je veux aller ce matin. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » On se souvient, pour ceux qui sont chrétiens, de ce jour où nous avons accepté Jésus-Christ. Et puis de tout ce débat avec le baptême: ça sert à rien. J'ai déjà été baptisé quand j'étais petit, et pourquoi se faire baptiser? Pourquoi se faire baptiser? Parce que Dieu l'a demandé. Et on commence déjà, c'est le premier commandement après la foi. Mais c'est celui avec lequel déjà on a le premier débat. On dit: j'ai la joie, j'ai l'amour, j'ai la paix avec Dieu, mais déjà, je veux bien te dire, Jésus, moi j'ai mauvais caractère. Et je ne me laisse pas convaincre comme ça. Non? Il y a peut-être plusieurs qui sont là, hein, en se disant: mais ça sert à quoi? Mais c'est juste obéir à Dieu. On dit: voilà, on est en paix avec lui, mais on est déjà en guerre avec le premier commandement qu'il me donne. On va en parler vendredi, hein, des ordonnances. Et puis peut-être, voilà, on s'est fait baptiser, on a grandi, mais ce fruit de l'esprit, les autres, le monde serait tellement plus simple s'il n'y avait pas les autres. Ça serait tellement plus simple d'aller quelque part où j'ai pas à discuter, j'ai pas à argumenter, j'ai pas à accepter la différence. Et notre monde est en train de tendre à ça. où l'intolérance ne tolère plus rien. Et que les différences qu'on veut nous faire accepter, c'est les différences que Dieu n'accepte pas. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, de quel arrière-plan qu'il vienne. Il n'y a pas de pécheur qui vient devant Dieu où Dieu dit « Oh, ça, c'est impossible ». Vous vous rappelez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors voilà, ce matin, je voulais nous rappeler cette Pentecôte. Revisiter ce fruit de l'esprit. Parce que c'est ce que Jésus a donné, nous a donné à nous. Et nous poser la question à nous, assemblés à Vigneux-sur-Seine. Est-ce qu'on a oublié les deux autres portes? Est-ce que finalement, la manifestation de ce fruit de l'esprit, il y a des problèmes là. J'arrive pas. Alors c'est peut-être le temps ce matin de se replacer devant Dieu et de dire « Seigneur, c'est vrai, il faut peut-être que je retourne dans le garage. Peut-être que j'aille voir cette caisse à outils que tu m'as donnée. Parce que si tu me l'as donnée, c'est que je peux l'utiliser. Le mode d'emploi, il est là. Et Dieu a donné son assemblée, il a donné des hommes à l'assemblée. Il a fait des dons, Éphésiens 4 nous dit, pour que nous puissions avancer. Alors on va, comme on le fait chaque dimanche, verser dans un moment de prière, et on va se placer devant Dieu. Et ce matin, la question qu'on va lui poser, c'est « Seigneur, cette caisse à outils, ce fruit en 9 parties, j'ai pas encore bien compris. Il y a tellement de choses dedans que j'arrive pas à faire. Tu les connais, Seigneur. C'est peut-être l'irritabilité, c'est peut-être les colères, c'est peut-être l'amertume, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être encore ces fruits de ma chair qui me passionnent et qui font opposition à ton esprit, et tu le sais. Mais Seigneur, tu ne veux pas que je reste là. Dans ton amour, dans ta patience, dans ta miséricorde, tu veux que je me tourne vers toi. Alors on ne va pas réinitialiser la Pentecôte comme il y a 2000 ans. Mais si ce matin, vous avez besoin de faire la paix avec Dieu, si peut-être ce matin, vous êtes un chrétien non baptisé, c'est peut-être le jour de décider de vous faire baptiser. Si peut-être vous êtes un chrétien qui vit dans le péché, en concubinage, ou avec quelqu'un qui est votre ami, mais qui n'est certainement pas votre mari, alors c'est le moment de décider. Seigneur, change ma vie. Aide-moi à me mettre de manière droite. Et puis peut-être tout simplement ce matin, si j'ai mon cœur qui a été tellement touché, je veux juste faire la paix avec Dieu. Alors je m'y engage. Alors mes amis, si vous pouvez répondre à une des trois questions, je vous demande tout simplement, si vous êtes de ceux qui veulent faire la paix avec Dieu ce matin, si quelqu'un ce matin voulait faire ce pas, je l'invite juste à lever la main, là où il est, là où elle est, et de dire oui, ce matin, moi j'ai eu mon cœur qui a été touché, je veux faire la paix. Y a-t-il quelqu'un qui veut accepter cette grâce de Dieu? N'hésitez pas, levez la main. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Ou peut-être vous êtes ces chrétiens qui sont en lutte avec ce premier commandement, cette première ordonnance, de proclamer votre foi par le baptême. Oh, ça ne sera pas fait aujourd'hui, rassurez-vous, pas à la fin du culte. On préparera ce jour, oui. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Si vous avez besoin de mettre votre vie en règle, ce matin vous dites, Seigneur, j'y arrive pas. Tu m'as donné les outils, mais j'y arrive pas. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin qu'on prie pour moi, mais j'ai besoin aussi qu'on m'accompagne. Si c'est votre cas, vous levez la main, vous dites, Jean-Claude, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu m'accompagnes. J'ai besoin que Dieu m'aide. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait que Dieu l'aide dans ses régularisations, dans sa mise en conformité? Et puis dernièrement, oui, que Dieu t'aide, ma sœur. Et puis peut-être dernièrement, si ce fruit de l'esprit, vous n'aviez pas compris encore jusqu'à aujourd'hui comment l'exprimer. Et que ce matin, vous dites, je veux bien regarder un peu plus au mode d'emploi. Je veux bien mettre le nez un peu plus dans ma Bible. Je veux bien être enseigné sur ces choses, afin que Dieu soit glorifié dans ma vie. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait prendre la main de Dieu pour que ce fruit de l'esprit se manifeste, qu'il ne reste pas au fond du garage sur une étagère, mais qu'il soit appliqué dans votre vie? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait que Dieu l'aide? Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions déjà pour ces personnes qui ont manifesté pour le baptême, ces personnes qui ont manifesté de mettre leur vie en règle. Seigneur, c'est toi qui travailles dans nos cœurs. Tu as mis l'esprit pour qu'il nous convainque, pour qu'il nous rappelle tes paroles. Et je te bénis, Seigneur, qu'en ce jour de Pentecôte, des hommes et des femmes ont été touchés par ton message. Et je te remets chaque frère, chaque sœur, chacun de ceux qui sont sur la route, afin que nous devenions tous ensemble de meilleurs chrétiens. Que tous ces outils, nous les laissions, en l'occurrence, dans les mains de l'Esprit, pour qu'ils puissent les développer abondamment, et que ton nom soit glorifié en nous, par nous, mais avec toi et en Jésus-Christ. Amen.